Monseigneur Marcaillet, bonjour. Merci d'être avec nous pour cet entretien diffusé conjointement sur Radio La Pourdie Ratia et sur Radio Présence Lourdes-Pyrénées. Alors avant de commencer, je voudrais rendre hommage à notre collègue Alexandre Aguerre qui est décédé le 8 octobre dernier, qui animait cette émission régulièrement avec moi pour Radio La Pourdie. On prie bien sûr pour lui et pour sa famille.
Oui, ça n'est pas sans une certaine émotion bien sûr que nous faisons cette nouvelle émission pour la première fois sans lui. Il nous a quittés, évidemment, de manière très imprévisible et impromptue. Et donc, nous avons évidemment une pensée particulière pour lui et pour sa maman. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il a été l'animateur, le directeur, le pilier de Radio La Pourdie pendant des années. Et nous avons souvent, à l'occasion de cette émission, été en dialogue. Voilà, donc nous pensons bien à lui.
Alors pour cette émission qui est l'émission de rentrée, puisque finalement on ne vous a pas eu depuis avant l'été, Monseigneur Aguerre, on va peut-être évoquer la rentrée de l'enseignement catholique, puisqu'il y a eu ce sujet déjà de la prière à l'école qui a été évoqué par Guillaume Prévost, le secrétaire général de l'enseignement catholique, et qui avait suscité des réactions assez violentes de la part de la société, des médias. Alors, est-ce que ça voudrait dire que le caractère propre de l'enseignement catholique ne serait pas compris? Est-ce que, selon vous, c'est un malentendu, justement, sur ce caractère propre?
Alors, je corrige un peu, les réactions violentes viennent toujours du même lieu. Hein. Parfois, c'est vrai, les services de l'État, mais surtout l'extrême-gauche dans l'échiquier politique français, en particulier LFI, hein, qui s'est emparée de cette question de la laïcité à l'école et sous contrat d'association. Je rappelle que les établissements catholiques sont d'abord des établissements d'enseignement catholique, où les chefs d'établissement reçoivent leur mission de l'Église, avant d'être des établissements sous contrat d'association avec l'État. Même si il est évident que nous sommes tenus au programme de l'éducation nationale, au moins de manière minimale. Mais le caractère propre veut dire aussi que la loi française, la loi Debré en particulier, qui pour l'heure n'a jamais été remise en cause, officiellement, eh bien, nous garantit une certaine latitude qui veut dire qu'un enseignement catholique, eh bien, c'est normal qu'on y propose la foi catholique. Le respect de la liberté de conscience est assuré, même lorsque le professeur fait la prière au début du cours, comme l'a rappelé avec courage et détermination le nouveau secrétaire général de l'enseignement catholique, parce que les parents savent bien ce qu'ils font lorsqu'ils mettent leurs enfants dans un établissement d'enseignement catholique. On ne leur cache pas qu'ils entendront parler de Jésus, que c'est un établissement catholique, donc bah, la prière a sa place, et elle ne prend pas pour autant de place sur les volumes horaires de l'enseignement, qui sont évidemment assurés et financés par l'État. Donc je crois, comme l'a dit avec un peu d'humour et sans doute une pointe d'agacement face à cette fausse polémique, Guillaume Prévost, quand vous allez dans une pizzeria, dans un restaurant vietnamien, eh bien, vous n'attendez pas qu'on vous serve une pizza.
La question se pose également pour l'EVARS, donc le programme d'éducation à la vie affective et sexuelle. C'est un programme qui est imposé par le gouvernement. Est-ce que, selon vous, les établissements catholiques ont quand même le droit de faire appel à d'autres associations qui donnent une vision plus chrétienne de ces questions?
Oui, parce qu'on peut leur retourner, en effet, le même principe qui est celui de la liberté de conscience. On ne peut pas imposer à des enfants et à des élèves un programme d'éducation affective, relationnelle et sexuelle qui soit contraire à l'anthropologie chrétienne dans un établissement dont le caractère propre, précisément, nous permet d'avoir une anthropologie chrétienne qui est le fondement même de l'éducation que nous donnons. Ça ne veut pas dire qu'on va se dérober à ce que l'éducation nationale demande comme éducation avec un programme précis, mais on aura la possibilité quand même de le commenter à partir de l'anthropologie chrétienne et parfois de corriger ce qui est dit et qui ne serait pas conforme à notre anthropologie chrétienne, qui est encore une fois le fondement du caractère propre de l'enseignement catholique.
Donc c'est vraiment un malentendu sur l'interprétation de ce caractère propre
qui... Je pense, il faut, c'est pourquoi l'enseignement catholique aujourd'hui, l'Église hein, doit rappeler précisément les contours de ce caractère propre pour éviter que nous soyons dilués dans un enseignement qui nous réduirait à être des établissements comme les autres établissements d'enseignement public.
Alors, autre actualité dans l'Église, le 9 octobre dernier, le pape a publié sa première exhortation apostolique, « Dilexité, je t'ai aimé sur l'amour envers les pauvres ». Vous avez eu le temps de la lire, je pense. Monseigneur Hayek, quel message est-ce qu'il faut retenir de cette exhortation apostolique, qui n'est donc pas une encyclique, mais
une exhortation? Non, c'est une exhortation apostolique, donc c'est moindre en effet qu'une encyclique, mais tout simplement parce que le pape Léon XIV, au début de l'encyclique, précise que l'ébauche de cette exhortation apostolique avait déjà été préparée par le pape François à la suite de son encyclique Dilexit Nos sur l'amour humain et divin du cœur de Jésus. Et c'est dans la ligne de cette encyclique Dilexit Nos qu'il a écrit l'exhortation apostolique, qu'il avait l'intention en tout cas de proposer cette exhortation apostolique avec le titre Dilexité, qui est tiré d'une parole de Jésus dans l'Apocalypse, adressée à une église qui est en situation de pauvreté, de précarité. Et c'est pourquoi cette exhortation apostolique, Dilexité, traite de l'amour envers les pauvres. Hein, c'est très beau d'ailleurs de voir qu'il y a un lien entre l'amour du cœur de Jésus et l'amour que Jésus attend de nous. Hein, c'est ce que tout le développement de l'encyclique Dilexit Nos, qui est un peu le testament spirituel du pape François, et l'amour envers les pauvres qui trouve sa source précisément dans l'amour du cœur de Jésus, voyez. Alors le pape Léon XIV, comme le pape François au début de son pontificat avait assumé une ébauche d'encyclique sur la foi Lumen Fidei du pape Benoît XVI, en y apportant sa propre contribution, eh bien le pape Léon XIV nous indique qu'il s'approprie l'ébauche de cette exhortation apostolique préparée par le pape François et y apporte ses propres réflexions. Ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'on montre bien que les papes sans doute ne se ressemblent pas et chacun va donner sa marque qui correspond évidemment à l'époque où nous nous trouvons, mais ils s'établissent dans une succession. On n'est pas pape à partir de soi-même, on est dans une succession apostolique, on est successeur de Pierre et donc on succède aussi à toute une lignée de papes qui nous ont précédés.
Quelle est la marque du pape Léon, si on peut déjà en déterminer une? C'est vrai qu'il est peut-être plus difficile à cerner que le pape François, non?
Disons que la marque du pape Léon XIV, si je puis dire, parce que c'est un peu trop tôt pour le dire et ce serait trop schématique, parce que c'est beaucoup plus riche que cela, mais, excusez du peu d'ailleurs, mais c'est un augustinien sur le plan de la spiritualité et de la théologie, puisqu'il a été lui-même religieux augustin, et même super général de cette congrégation. Et donc, il est très centré sur le Christ. Et il est très centré sur l'amitié avec le Christ. Ça transpire de tous ses discours, de tous ses messages. J'étais très frappé en particulier de tous ses messages en direction des jeunes, hein, et des séminaristes, et des prêtres. Voilà. Et donc, on voit bien que dans cette exhortation apostolique sur l'amour envers le pauvre, c'est très christocentré. C'est-à-dire que il s'agit de découvrir dans le pauvre, dans l'exclu, dans le marginal, dans le malade, dans le prisonnier, dans le migrant. Et évidemment, on a toute l'inventaire hein, de toutes les pauvretés dans le monde. Eh bien, de trouver que c'est le Christ qui se révèle à nous à travers le pauvre. Le Christ qui s'est fait pauvre et qui nous enrichit par sa pauvreté, comme dit saint Paul. Le Christ qui s'est identifié au plus petit, au plus pauvre, lui qui dit... tout ce que vous aurez fait au plus petit entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. J'avais faim et vous m'avez nourri, j'avais soif et vous m'avez désaltéré. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Vous voyez, donc c'est vraiment un acte théologal et le service de la pauvreté n'est pas seulement philanthropique, il n'est pas seulement social, comme le dit à l'envi le pape Léon XIV dans cette exhortation apostolique. Mais c'est un acte théologal. Je reconnais le Christ à travers le pauvre. Je sers le Christ et j'aime le Christ. Et je puise cet amour théologal pour le pauvre. Eh bien, je le puise dans mon amour théologal pour le Christ, en particulier à travers l'Eucharistie, qui est la source de la charité.
Alors, le 7 septembre dernier, il y a eu la canonisation de deux jeunes, Carlo Acutis et Pier Giorgio Frassati. Là aussi, c'est un message fort pour nos jeunes et puis pour nous tous.
Oui, c'est impressionnant. Hein. Ce sont deux jeunes Italiens, comme vous l'aurez remarqué. L'un de Turin, Pier Giorgio Frassati, qui est du début du XXe siècle, qui est mort à 24 ans en 1925, c'est-à-dire il y a exactement 100 ans. Et Carlo Acutis, qui est beaucoup plus proche de nous, puisque il est né en 91 et il est mort en 2006, donc il avait 15 ans, donc il est de Milan, voilà. Et ces deux saints, comme le pape l'a bien souligné au moment de la canonisation, le 7 septembre dernier, ont ça de commun, qu'ils ont fondé leur vie sur la pratique quotidienne de l'Eucharistie, liée à la confession fréquente, comme le rappelle aussi le pape dans son homélie. Donc ça, c'est très beau, parce que c'est dans l'Eucharistie, le sacrement de l'amour, qu'ils ont puisé leur sainteté, qui s'exerce aussi, et fondamentalement, chez l'un comme chez l'autre, différente étant de l'âge qu'ils ont l'un et l'autre, mais qu'ils exercent à travers l'amour envers les pauvres. Hein, c'était toute la vie de Pierre Giorgio Frassati, qui faisait partie de l'Action catholique et de la conférence Saint-Vincent de Paul. Et c'est vrai aussi de Carlo Acutis, qui n'avait qu'un envie, c'est d'aller donner à manger, pour se couvrir l'hiver, de tous les SDF qui se trouvaient dans le quartier qu'il habitait au centre de Milan. Et donc le pape a souligné justement, et moi j'ai surfé d'une certaine manière là-dessus, le jour de la messe du pèlerinage de l'âge bébé
à Lourdes,
la messe diocésaine, en disant il y a deux indications pour nous aussi, que nous puisons dans ce témoignage de ces deux jeunes saints qui nous sont donnés en modèle, aux jeunes comme aux vieux, que nous sommes quant à moi, et c'est l'amour et la dévotion à l'Eucharistie, et le service des pauvres, et je ne savais pas si bien dire, puisque quelques jours après, le pape Léon XIV publiait des exhortations apostoliques sur l'amour envers les pauvres.
Alors on est toujours dans l'année jubilaire, qui va se terminer donc le 6 janvier 2026. Vous avez été de nombreuses fois à Rome, et notamment avec les jeunes cet été, 270 jeunes et accompagnateurs, et puis vous êtes aussi rendu avec les catéchistes plus récemment. Alors, quels sont les fruits de cette année jubilaire, si on peut déjà parler de fruits, même si elle n'est pas encore terminée, et comment est-ce qu'on peut encore la vivre d'ici la fin de l'année ?
Alors, j'espère d'abord que les fruits sont des fruits spirituels et des fruits de conversion. Nous savons que c'est une année particulière où les fidèles peuvent, moyennant certaines démarches qui expriment un désir de conversion, eh bien obtenir cette fine pointe de la miséricorde de Dieu, qui est l'indulgence plénière, c'est-à-dire la remise des peines temporelles dues au péché qui ont été pardonnées dans le sacrement de pénitence et de réconciliation. Donc je pense que les paroisses, les communautés paroissiales, je l'ai bien vu, ont multiplié quand même les démarches jubilaires communautaires, que ce soit à Lourdes, qui est un grand sanctuaire, et qui est quand même très attractif toujours, mais aussi les lieux jubilaires de notre diocèse. Ici, dans le Pays Basque, c'est notre du refuge, la cathédrale aussi de Bayonne, puis dans le Béarn, il y a plusieurs lieux aussi, la cathédrale de Lescar, la cathédrale de
le sanctuaire de Bétharram.
Voilà, le sanctuaire de Bétharram, le sanctuaire de Sarens, et puis la cathédrale de Laurent. Et j'invite d'ailleurs les fidèles à continuer jusqu'à la fin de cette année. Nous clôturerons dans les diocèses, comme l'avait demandé le pape François, cette année jubilaire le 29 décembre, par une célébration à la cathédrale de Bayonne, une seule célébration cette fois-ci. Et le pape clôturera, quant à lui, l'année sainte pour l'Église universelle le 6 janvier, jour de l'Épiphanie, le 6 janvier 2026. Donc j'invite les fidèles à continuer à faire des démarches. Mais les jubilés nous ont permis aussi, à travers les différentes catégories de fidèles que j'ai pu accompagner, eh bien, qui vont sans doute irriguer aussi leur engagement dans leur service. Et là, pour les catéchistes et le catéchuménat, ce sera évident.
Ce sera le 28 décembre, dimanche 28 décembre.
Dimanche 28 décembre, pardon.
Voilà, messe à la cathédrale de Bayonne, voilà, à 16h. On en reparle. Monseigneur Ayet, nous sommes avec vous pour cette émission diffusée sur Radio La Pourdieratia et sur Radio Présence Lourdes-Pyrénées. Retour sur quelques événements diocésains depuis la rentrée. Il y a eu bien sûr le pèlerinage diocésain, comme chaque année à Lourdes, au sein du pèlerinage de l'hospitalité basco-béarnaise, qui a emmené cette année 430 malades et toujours autour d'eux 1000 hospitaliers pour les entourer. Alors c'était une démarche jubilaire, en fait, d'une certaine manière, à Lourdes, on a parlé du jubilé.
Et oui, puisque le thème du pèlerinage de Lourdes cette année, que nous avait donné le sanctuaire, c'était « Avec Marie, pèlerin d'espérance ». Donc le thème du jubilé, c'était « Pèlerin d'espérance », donc évidemment centré sur cette grande vertu de l'espérance, et donc nous avons vécu aussi ce pèlerinage à l'heure du jubilé de l'espérance. Et c'est tellement important et tellement significatif quand il s'agit d'accompagner des malades et des personnes handicapées qui peuvent avoir des bonnes raisons et des vrais besoins d'espérer, dans des situations humainement pas toujours faciles à vivre, Mais on voit que Lourdes, le grand miracle de Lourdes, ce n'est pas forcément les guérisons physiques, mais ce sont les guérisons intérieures. Et c'est la joie que l'on perçoit sur les visages, qui n'est pas seulement une joie humaine, mais qui est une joie très profonde et quasiment surnaturelle, qui naît de la grâce, qui se vit à Lourdes. C'est vrai que je suis toujours frappé dans ce passage de l'âge bébé de cette atmosphère de joie rayonnante des bien portants comme des malades, et qui sont tous pèlerins à égalité, même si chacun assume sa fonction. Mais je pense qu'il y a une aide mutuelle entre les uns et les autres. Et je pense en particulier à ces 200 jeunes qui participent chaque année à ce pèlerinage, qui viennent de nos établissements, principalement souvent catholiques, qui sont en terminale, et qui vivent vraiment aussi une grande expérience qui n'est pas seulement, j'allais dire, caritative, mais qui est spirituelle. Et ô combien la joie de ces malades, de ces personnes âgées qu'ils accompagnent à la grotte, aux piscines, à la procession au flambeau, ou à la procession au sacrement, ou dans les diverses célébrations diocésaines dans l'église Sainte-Bernadette, ben, je vois que ce sont les malades qui leur apportent beaucoup et qui témoignent de cette foi, de cette espérance qui les habite et qui peut aussi conforter un chemin qui commence chez certains jeunes ou peut être le déclic pour d'autres jeunes de la foi. Lourdes, il y a une grâce particulière à Lourdes. On a l'impression que tout le monde s'entend. On est dans une charité fraternelle. On est dans un élan de ferveur et de foi qui sans doute est vraiment la grâce de Lourdes. Et donc, j'en rends grâce à Dieu.
Alors, cette année, on fête plusieurs anniversaires. Il y a les 150 ans de la communauté des moines de Belloc, et c'est aussi un jubilé pour eux. Les 200 ans de la naissance du cardinal Lavigerie, donc, qui est le fondateur des Pères Blancs. C'est vrai qu'on a de la chance dans notre diocèse d'avoir de nombreuses communautés religieuses qui sont encore présentes. C'est l'occasion de les honorer, de les célébrer.
Oui, certainement, surtout que Belloc célébrait les 150 ans d'un monastère qui a été florissant, et qui j'espère le demeure, malgré les pauvretés d'aujourd'hui, un poumon spirituel pour le diocèse. Donc c'est important de faire mémoire de cette histoire de la spiritualité au sein de notre diocèse, à travers la présence depuis 150 ans des moines et des moniales de Belloc, tout en se disant qu'on est dans une situation de pauvreté. Donc c'est un appel aussi. Comme dans la Bible, quand on fait mémoire, on demande au Seigneur une actualisation des grâces que l'on célèbre. Et donc j'espère que c'est cette commémoration qui s'est faite de manière très simple, au monastère de Saint-Scholastique-Durt, où maintenant les moines sont aussi installés, après des travaux qui permettent d'être installés dignement, eh bien, j'espère que tout ça va aussi être un appel d'air, pas forcément pour Belloc même, mais pour le diocèse et pour les jeunes, pour un désir de consacrer leur vie au Seigneur. Le cardinal Lavigerie, en effet, qui est né à Bayonne, même si c'est au quartier Saint-Esprit, qui n'était pas encore Bayonne à ce moment-là, mais qui est devenu très vite, et donc Bayonne est fier aussi de compter parmi ses membres, si je puis dire, Canal Lavigerie, qui a donc fondé en effet les missionnaires d'Afrique, que l'on appelle les Pères Blancs, en raison de l'habit qu'ils portaient, surtout dans les pays du Maghreb. Voilà, c'est une congrégation aussi qui n'a plus beaucoup de vocation chez nous. Il y a une maison de retraite, en tout cas à Bière, donc heureux de rendre grâce pour toute la fécondité missionnaire de tous ces prêtres âgés qui sont maintenant à Bière. Mais ceci dit, les Pères Blancs continuent d'essaimer en Afrique. Aujourd'hui, ils ne sont plus originaires de nos pays, France souvent, mais ils sont originaires des pays d'Afrique. Ça veut dire qu'ils ont aussi su transmettre, en tout cas, la flamme missionnaire qui habitait le cardinal Lavigerie.
Et puis le 8 septembre dernier, vous avez présenté un nouveau recteur que l'on connaissait déjà, puisque c'était le curé de la paroisse, l'abbé Bernard Faure, qui est désormais le recteur du sanctuaire Notre-Dame d'Abbette. C'était l'occasion de rendre ce sanctuaire, de lui donner une dimension diocésaine.
Voilà, jusqu'à présent, c'est un sanctuaire évident depuis longtemps, qui a une riche histoire. D'ailleurs, il y a beaucoup d'ex-voto qui montrent que la Vierge ici, Notre-Dame d'Abbette, est miraculeuse. Grâces ont été obtenues en tout cas, et c'est un sanctuaire qui continue d'attirer les fidèles. Il y a d'ailleurs une association des amis du sanctuaire de Notre-Dame-de-Bette qui assure les pèlerinages qui ont lieu régulièrement, en particulier le 8 septembre, le 15 août, le 8 décembre. Et donc, jusqu'à présent, il était, étant sur le territoire de la commune de Lahontan, il a d'abord été desservi par la paroisse de Lahontan, puis par la grande paroisse de Notre-Dame-de-Bette Puyot, dont le curé était le desservant. Et aujourd'hui, on en a fait un sanctuaire diocésain distinct des paroisses, qui aura donc une vocation plus diocésaine, et qui sera aussi un poumon spirituel pour l'ensemble du pôle missionnaire, qui comprend les paroisses d'Orthez, de Salis et de Puyot. Donc maintenant, bien, il y a un recteur propre qui est distinct du curé de Notre-Dame-de-Bette Puyot, et qui va assurer avec une équipe qui sera pas seulement une petite équipe autour de lui très locale, mais aussi qui comprendra une dimension et du pôle missionnaire et du diocèse pour pouvoir animer toujours mieux ce lieu de pèlerinage à la Vierge Marie.
Enfin, en ce début d'année, on peut revenir sur l'installation de nouveaux curés. Alors, il y en a qui étaient déjà en place en tant qu'administrateurs, l'abbé Alexandre Méré à Pontac, André Anasuato à Bière, et il y a eu deux nouveaux curés, un à Asparin et l'autre à Morlas.
Voilà, et donc les installations sont toujours des moments de joie aussi pour la communauté paroissiale, qui se rassemble, qui sans doute pleure un curé qui s'en va, mais qui accueille le nouveau avec beaucoup de joie et d'espérance, comme un don de Dieu, hein, qui permet d'assurer la pérennité aussi du service pastoral dans une paroisse. J'étais très touché en particulier le jour de l'installation de l'abbé Blaise Martin Maquisa à Asparin, où il avait déjà fait les deux premières années de son ministère dans notre diocèse comme prêtre coopérateur, avant de partir comme curé à Morlas. Et il a été accueilli à bras ouverts, et j'étais très touché des paroles de présentation de sa paroisse par une membre du conseil pastoral qui a précisé que dans cette période de pauvreté spirituelle traversée par notre pays basque, eh bien, nous étions reconnaissants au diocèse d'Afrique qui nous donne des prêtres, nous qui avons envoyé tellement de prêtres, et c'est tellement vrai d'Asparin, missionnaires en Afrique, eh bien, qui viennent nous aider à traverser cette période de pauvreté spirituelle, avec un vrai désir d'inculturation, car je suis assez impressionné de voir ces prêtres venus, quant à lui, de Brazzaville, qui essaient d'apprendre la langue basque, qui ont le don des langues d'ailleurs beaucoup plus que nous, et qui s'inculturent dans la tradition culturelle si riche de notre pays basque, pour annoncer l'évangile aussi à frais nouveaux, parce qu'ils viennent aussi de leurs jeunes églises d'Afrique, qui ont aussi un élan à réveiller en nous.
C'est vrai qu'on vient de vivre la semaine missionnaire mondiale et c'était l'occasion de rassembler les prêtres Fidei Donum de notre diocèse, donc tous ces prêtres qui viennent d'ailleurs et qui sont certains curés chez nous. Nous terminons cette émission avec vous, Monseigneur Marc Haillet, pour parler de la rentrée, et notamment la rentrée du séminaire, avec des bonnes nouvelles, puisque nous avons des nouvelles recrues cette année. Alors, combien sont-ils dans que ce soit les propédeutes, c'est-à-dire l'année de discernement, ou les séminaristes?
Alors, vous savez que ce fut le péché de David que de compter ses troupes, comme on le lit dans le livre des Rois. On est quand même très heureux, en effet, de cette embellie de la rentrée, après quelques années de vache maigre dans notre séminaire diocésain des 5 heures de Jésus et de Marie, puisque nous accueillons cette année 5 propédeutes et un nouveau séminariste qui a fait la propédeutique l'an dernier, tout seul, hélas. Donc, et puis les deux qui reviennent de leur stage intercycle, mûris aussi, fortifiés dans leur vocation et qui gaillardement recommencer la vie au séminaire, donc en première année de théologie. Donc ça veut dire qu'on a un séminaire qui s'étoffe un peu, et puis le séminaire diocésain aussi missionnaire Saint-Jean-Paul II, Redemptoris Mater, qui rassemble des jeunes qui viennent du chemin catéchuménal, qui accueille aussi 4 propédeutes et un nouveau séminariste. Et un nouveau séminariste qui, lui, est français, qui rejoint donc d'autres séminaristes qui viennent plus tôt du monde aujourd'hui latino-américain. Donc nous sommes très heureux de cette embellie, ça fait un certain nombre de jeunes qui, même s'ils viennent d'ailleurs, seront incardinés dans le diocèse de Bayonne et vont donner leur vie, perdre leur vie, pour le diocèse de Bayonne. Je crois que c'est ça qu'il faut regarder d'abord. Certains disent, mais ils viennent, ils ne sont pas de chez nous, ils viennent d'ailleurs. Ben oui, mais c'est le Seigneur qui nous les envoie. Et ils sont prêts à perdre leur vie, hein, à cause de Jésus et de l'Évangile, pour nos communautés chrétiennes. Hein, et donc pour les soutenir et les aider à assumer leur mission d'évangélisation dans notre Pays basque, dans notre Béarn. Donc, c'est une grande joie.
Et justement, on a eu un nouveau diacre, ordonné diacre en vue du sacerdoce, Abel Muigaman, donc qui vient de ce séminaire Redemptoris Mater. C'était à Anglette, il a été, donc vous l'avez ordonné diacre.
Le 4 octobre.
Alors, je crois qu'il va partir momentanément de notre diocèse.
C'est là où vous voyez que dans l'Église, on a le souci de toutes les Églises, et on n'est pas replié sur son diocèse, là. C'est aussi une manière de vivre pour l'évêque la collégialité que de répondre à certains appels. Bon. Il se trouve que Mgr Jean-Paul Jamme, archevêque de Bordeaux, qui a dans son diocèse une mission ad gentes du chemin neocatéchuménal et qui a deux prêtres du chemin neocatéchuménal dans deux paroisses, avait besoin d'un prêtre du chemin pour soutenir un curé de paroisse, celui de la Trinité en l'occurrence. Et donc, il m'avait demandé déjà quelques années si je pouvais préparer un ou deux séminaristes pour le diocèse de Bordeaux, tout en restant un cardinal du diocèse de Bayonne. Et donc, on avait demandé volontaire. Abel s'était présenté comme volontaire. Et il a maintenu son choix au moment où il a dit oui pour l'appel au diaconat. Et donc, moi aussi, j'ai accepté que Abel, qui était formé chez nous, puisse, pour un temps, servir dans le diocèse de Bordeaux. De même, nous avons un nouveau recteur du séminaire Redemptoris Mater cette année, qui a été 17 ans dans le diocèse de Marseille, qui s'appelle Leonardo Caceres. Et donc le cardinal Aveline a bien voulu nous le prêter, avec l'accord et non de son ordinaire, puisque lui il est du diocèse de Newark, aux États-Unis. Et donc il m'a demandé aussi si je ne pouvais pas lui prêter aussi un prêtre. Et donc c'est l'abbé José Celestino, que j'ai ordonné il y a 2 ans, hein, et qui a été envoyé aussi, selon un contrat aussi, une convention entre les deux diocèses, dans le diocèse de Marseille. Vous voyez que je ne garde pas les prêtres jalousement dans notre territoire, mais je suis prêt aussi à répondre à des appels pour, dans le cadre de la collégialité, la fraternité épiscopale.
Et Abel sera bien ordonné ici, si Dieu le veut.
Bien sûr, Abel sera ordonné chez nous, et il sera prêtre du diocèse de Bayonne.
Alors, la pastorale des vocations, c'est un sujet, bien sûr, qui vous tient à cœur et qui se développe dans notre diocèse, puisque vous avez l'abbé Fabien Damet qui s'en occupe. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles donc, de ce cycle Saint-Jean-Paul II qui est développé pour, justement, cette pastorale des vocations?
Voilà, la pastorale des vocations s'appuie, en effet, sur un partenariat avec la compagnie Saint-Jean-Paul II, si je puis dire, qui est une association de prêtres diocésains, hein, sur le diocèse de Luçon, et qui a en effet monté des cycles de prédiscernement, on pourrait dire, ou de discernement vocationnel, Saint Jean-Paul II pour les garçons et Sainte Thérèse pour les filles. Actuellement, nous avons signé un contrat de partenariat à plusieurs diocèses de la province de Bordeaux pour qu'il y ait un cycle Saint Jean-Paul II qui ait lieu à nos portes, qui ait lieu à Bordeaux et non plus seulement à Luçon, où nous envoyons des jeunes qui désirent faire ce cycle et qui sont en lien évidemment avec le service diocésain de la pastorale des vocations. Donc il y a plusieurs jeunes du diocèse qui accomplissent ce cycle depuis déjà 2 ans. Et vous savez que l'abbé Louis Legrel, qui fait partie aussi du service diocésain, avec aux côtés de l'abbé Fabien Damet, s'est formé pendant 2 ans et assure maintenant l'animation aussi avec le responsable bordelais, donc de ce cycle Saint-Jean-Paul II à Bordeaux. L'abbé Fabien Damet, pour bien connaître aussi ce cycle, l'a aussi suivi l'an dernier. Et nous avons aussi l'abbé Sange de Françou, qui lui assure cette année sa 2e année de formation dans le cycle Sainte-Thérèse, donc qui accompagne plutôt le discernement des filles à une vocation religieuse. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une grande aide pour nous, pour aider des jeunes à prédiscerner avant d'entrer pour les garçons en propédeutique, séminaire ou dans d'autres vocations, au mariage ou à la vie consacrée.
Et à noter que c'est un cycle qui a lieu le week-end, donc ça peut être fait en parallèle avec ses études.
Ah, tout à fait. C'est un week-end par mois, Donc c'est quand même assez, assez exigeant et assez intense, mais ça reste tout à fait compatible avec une vie d'études, d'étudiants ou de jeunes professionnels.
Alors, autre sujet pour notre diocèse, c'est donc l'érection de ces nouvelles maisons diocésaines qui avancent, hein, puisque à Bayonne, les travaux ont commencé cette année et s'accélèrent. Et puis à Pau, la nouvelle maison diocésaine va bientôt être inaugurée. Un mot sur ces deux nouvelles maisons, pour ceux qui ne sont pas au courant encore.
Voilà, je pense que tout le monde doit être un peu au courant. La maison diocésaine de Bayonne, donc, et les travaux ont commencé au mois de janvier ou février. Je pense que le gros œuvre devrait être quasiment terminé à la fin de cette année. Puis après, il y a tout l'aménagement. Donc, il faut encore plus d'une année de travaux, évidemment. Mais c'est une belle réalisation qui prend forme et que nous suivons de manière assez régulière.
Et donc, ça sera pour fin 2017. 2027, pardon.
Enfin, fin 2027.
Ouais, mais fin 2027.
Disons au premier semestre 2027. Mmh. Et puis la maison Saint-François-Xavier, donc, qui est celle de Pau, qui est donc la transformation, la restauration de l'ancienne maison des Jésuites, hein, comme nous savons bien, rue Montpensier à Pau. Celle-là, et les travaux de restauration sont quasiment terminés, et nous devrions l'inaugurer fin janvier.
Donc, et elle est déjà active.
Elle est déjà un petit peu en
activité, puisqu'il y a des étudiants.
Voilà, les foyers d'étudiants sont déjà actifs. Le prieuré, évidemment, est présent déjà depuis un an. Et puis, les grandes salles d'activité étant déjà terminées, il peut y avoir déjà des réunions qui ont eu lieu. Par exemple, la Mutuelle Saint-Christophe a tenu sa réunion diocésaine dans cette maison 2 jours de suite.
L'idée, c'est donc qu'il y ait plus de communion entre les services, entre les mouvements, que tout le monde se retrouve dans un seul lieu, que ce soit à Pau ou à Bayonne.
Voilà, absolument. Un lieu de communion missionnaire.
On termine, Monseigneur Hayet, cette émission avec peut-être les projets cette année, puisqu'on est encore un peu le début de l'année pastorale. Notamment, vous allez effectuer des visites pastorales.
Voilà, c'était demandé.
Ça a commencé.
C'était demandé, et donc je vais reprendre mon bâton de pèlerin et visiter à nouveau les paroisses, toutes les paroisses, à raison d'une journée cette fois-ci, non pas de 5 jours par mois, comme je l'ai fait au début de mon ministère épiscopal, selon un programme bien défini, assez simple, qui permet de visiter à nouveau toutes les paroisses, de les encourager et de les aider à réfléchir sur l'avenir de la mission dans le cadre de cette transformation pastorale et missionnaire, ou cette conversion pastorale et missionnaire à laquelle nous attelons aujourd'hui. D'autre part, nous allons aussi, comme ça nous est demandé au niveau de l'Église universelle, reconstituer une équipe diocésaine synodale, à partir du conseil pastoral diocésain. Pour continuer dans toujours ce thème qui reste le thème aussi de nos visites pastorales, pour une église synodale, communion, participation et mission. Et donc voilà, je pense que c'est l'essentiel de ce qui se passe. On continue en effet aussi notre travail sur la transformation missionnaire du diocèse, et en particulier en proposant une journée de travail, justement, avec les curés dans un premier temps, mois de janvier, qui précédera la traditionnelle rencontre des prêtres du diocèse pour les vœux au clergé.
Donc tout cela va durer peut-être un peu plus d'une année.
Parce que l'objectif, c'est de faire un ou deux mardis par mois. Donc c'est sûr qu'il y a quand même 69 paroisses. Alors on a réduit, quand il y a un curé pour 3 paroisses, on ne fait qu'une visite pastorale pour l'ensemble de ces 3 paroisses.
Merci beaucoup, Monseigneur Hayet, pour ce temps passé avec nous pour présenter un peu la rentrée. Puis on se retrouve d'ici quelques semaines avec vous sur Radio Lapourdie et sur Radio Présence. À bientôt.